Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Ensemble ce soir pour nos lectures en liberté et la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Nedim était dégrisé. Se barrer d'ici, vite fait. Ne pas rater le rendez-vous avec Pédrague, partir. Il eut peur soudain. Il réalisa qu'il n'y avait plus que lui dans la boîte. Non, il n'était pas le seul client. Un autre type était là, accoudé au comptoir. Lala discutait avec lui, assise sur un tabouret, le dos tourné à Nedim. Le garçon lui servit un verre d'eau. Un verre d'eau, putain. Il regagna le box pour ramasser ses clopes. Sur la table, les deux bouteilles de champagne et les verres pleins semblaient le narguer. Il se retourna. Gabi était derrière lui. Elle lui tendit la note. Espèce ou carte bleue ? 1 800 balles. Deux bouteilles, 1 800 balles. Il leva les yeux vers Gabi. Le gin tonic, il est offert, dit-elle. Mais j'ai pas assez. Il était sans voix. Ça tournait dans sa tête, sonné, il était. Même plus la force de se demander comment il allait pouvoir sortir d'ici sans trop de casse. Et Pédrague, comment il ferait avec Pédrague ?
On fait pas crédit.
Mais j'ai pas assez, il redit. Les yeux de Gabi ne le quittaient pas. La panique le gagnait. Il aurait dû danser avec elle, il pensa, l'amadouer. Il aurait dû comprendre ça, que des deux, c'était elle qui décidait. Lala avait essayé de lui faire comprendre, non ? Ils s'en seraient tirés avec une seule bouteille, sans honte, sans casse aussi.
« Doug, tu peux venir un instant ?»
Le black réapparut aussi vite qu'il s'était éclipsé tout à l'heure.
« Ouais ?»« Ce con, il a pas assez. »«
J'ai peut-être 1 000 balles. » Nedim se laissa tomber sur le siège, sortit ses billets et commença à compter. 950. Doug se pencha vers lui, ses mains larges bien posées à plat sur la table. Nedim n'osa pas relever la tête. Profil bas, il s'était dit. Joue le con, écrase. Il entendit les filles rire derrière lui au comptoir, Lala et Gabi. Et l'autre client aussi, il riait.
On fait comment ? Demanda Doug.
On est quitte avec ça, osa Nedim, j'ai rien d'autre.
T'as tes papiers ?
Nedim lui tendit son passeport.
Turc, il est turc cet enfoiré, cria-t-il en direction du comptoir. Tous des enculés, répondit le type du comptoir, et il se marra.
Doug mit le passeport dans la poche de sa chemise. T'es marin ?
Sur l'Aldébaran, confirma Nedim. Il part quand ton bateau ? On arrive ? Tu fais quoi à trimballer ton sac ?
Il ne pouvait rien répondre à ça. Il se leva. Il fallait qu'il se tire, il avait encore une chance d'attraper Pédrague. Avec lui, il s'arrangerait, une fois qu'il serait dans le camion. Maintenant, l'envie de rentrer chez lui, il n'y avait plus que ça qui comptait. Pas à Istanbul, non, chez lui, dans les montagnes, sur les routes sans fin d'Anatolie. Le visage de sa mère s'interposa entre lui et Doug. Cette fois, il se dit « j'irai sur la tombe de papa ». Il le promettait toujours, mais il n'y allait jamais. Il ne trouvait jamais le temps d'aller là-bas, sur le plateau. après les gorges de Bilecik. Les yeux de son père se posèrent sur lui, des yeux bleus comme les siens. Sali, le forgeron, maître Sali. Il connaissait par cœur les cinq piliers de l'islam. On voulait l'écouter dans sa forge, il martelait le fer et il récitait. Et chacun, en l'écoutant, louait Dieu. La voix droite. Nedim frissonna. Il ne se souvenait plus de l'amen final. Il fallait toujours terminer une prière par un amen. Son père ne le quittait pas des yeux. Il se revoyait devant lui, enfant, bégayant, avec cette peur qu'il le renie, le raye de sa descendance pour avoir oublié les mots de la prière et le rejette faire l'enfer des mécréants. L'enfer doit être comme ça, avait dit un soir Ali le bûcheron en montrant la forge. Le feu de l'enfer ne ressemble pas à celui de ce bas monde, avait répondu son père. Il brûle mille fois plus que le nôtre. Mille fois plus. La voie droite. Louange à Dieu. Les mots lui revenaient. Il devait aller sur la tombe de son père. « Il faut que j'y aille, » dit-il en se levant. Doug le toisait. Sans manifester aucune animosité, son visage n'exprimait rien, comme s'il ne pensait pas, et il se taisait. Nedim regarda furtivement vers le comptoir. Lala et Gabi, toujours juchés sur les tabourets, papotaient tranquillement avec Gisèle, le barman et le dernier client. Nedim n'existait plus pour eux. Il n'existait que pour Doug. Sa grosse main le saisit au cou. Il serra. Nedim se sentit soulevé. Il était sur la pointe des pieds, ses yeux à hauteur de ceux de Doug. L'air lui manqua. Une bouffée de chaleur l'envahit et l'envie de vomir soudain. « Et comment qu'on fait ?» demanda Doug, sans élever la voix. Autour de son cou, les doigts de Doug étaient aussi durs que son regard. Nedim sentait la pression du pouce et de l'index sous sa mâchoire. Toute la force et la violence de Doug semblaient se concentrer là, dans cette seule pression des doigts. Une nouvelle bouffée de chaleur lui trempa le dos. « Comment qu'on fait, hein ? » « Lâche-moi ! » Il tenta d'articuler. « Lâche-le !» C'était un ordre. Doug regarda Gisèle et desserra son étreinte. Nedim se retrouva sur ses pieds. Il se massa le cou tout en reprenant sa respiration. « C'est quoi déjà ton rafio ?» elle demanda. Nedim croisa le regard de Lala. Elle s'était légèrement tournée vers eux. Il eut honte de lui d'être aussi minable. « Un cargo, l'Aldébaran ?»« Doug va garder ton passeport et ton sac. Tu reviens tout à l'heure ou demain si tu veux, mais avec le fric qui manque. Ok, connard, allez, fous-moi le dehors, cet enfoiré de merde. »« Mon sac. » Almas sublime para las almas que te comprendan fiel como yo. Les derniers mots qu'il entendit, c'était pas les pires. Nedim se réveilla en sursaut. Il n'avait aucune idée de l'heure. Sa montre en tombant s'était cassée. Il s'étira, mais mollement. Il ne se sentait aucun courage. Il regarda autour de lui et n'eut que dégoût pour lui-même. Il referma les yeux. Il avait remonté le vieux port côté mairie, d'abord en marchant très vite, puis plus lentement, les mains dans les poches, parce que plus rien ne pressait. Au clocher des Acoules, il était déjà 5h30. Pedrag devait être loin. Il s'était allumé une clope en traitant Pédrac d'enculé, de pauvres connasses Lala et Gabi, de poufias Gisèle, de fils de pute cet enfoiré de gros négro du Habana. La terre entière y passa. Il parlait à haute voix, presque en criant « Connard, 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 tous des connards !» Il en avait les larmes aux yeux. Nedim, depuis quelques jours, il s'en était fait une raison de rentrer au pays. C'est ce qu'il avait expliqué à Ousben. Naviguer, finalement, c'était pas son truc. C'était un paysan, lui, pas un marin. Sa terre lui manquait. Son village, sa maison, les cyprès le long du jardin, les collines qu'il voyait de sa fenêtre, le ruisseau que l'on entendait couler derrière la porte de la cuisine, et en haut du village, Ezel, sa fiancée, celle que son père était allé demander en mariage pour lui quand il était revenu de l'armée. « Mon fils, lui avait-il dit, tu as l'âge de fonder une famille, ton cœur a-t-il choisi ?» Ce n'était pas le cœur de Nedim qui avait choisi, c'était son corps, tout son corps. Ezel était la plus belle fille du village, des villages voisins aussi. Elle avait 16 ans. Tous les garçons l'avaient vu grandir, Ezel, s'épanouir. Tous en rêvaient. Osman, son copain d'enfance, aurait dû l'épouser. Mais Osman était mort, écrasé par un arbre, ce con. Et Nedim était le plus âgé des garçons du village, encore célibataire. Il avait droit sur Ezel. C'est à cause d'elle que tout avait basculé. Pour lui et pour sa famille. Emin, le père d'Ezel, ne voulait pas donner sa fille à un garçon sans emploi. « Je te connais et te respecte, toi, ta famille et tes ancêtres », avait-il répondu à son père. « Nedim, je le sais, c'est un brave garçon, il sera un bon époux et un bon père de famille. La dot que tu proposes me convient parfaitement, Sali, mais Ezel est jeune encore et Nedim n'a pas de travail. » Je te promets ma fille pour ton fils. Reviens me voir quand il gagnera sa vie. Emine avait ajouté, encore une chose, Sali. Je ne veux pas que Nedim emmène ma fille à l'étranger. Comme le font la plupart de nos enfants, il n'y a rien à gagner ailleurs que la mort. Nedim s'était foutu en colère après Emine et après son père et sa mère aussi. Est-ce qu'on avait le droit de traiter comme ça le fils de Sali, le forgeron, le fils de maître Sali ? Ezel, depuis qu'il était revenu au village, il la désirait. Elle était belle, oui, mais surtout, elle était pure, son cœur. Son corps, ses pensées, cela se lisait dans ses yeux. Elle n'était pas comme ces filles qu'il avait croisées à Istanbul, habillées à l'européenne, en jupe courte ou en jean, fumant cigarette sur cigarette. Des filles qui pensaient qu'à se faire baiser, des putes. Des putes. Sa vie se résumait à ça, depuis 4 ans qu'il était parti. Parce que son père avait donné raison à Emine. Bon, il ne le regrettait pas, Nedim, d'être parti. Des figues, il s'en était envoyé de toutes les couleurs, aussi belles les unes que les autres, plus belles que Ezel, sans doute. Mais aucune n'avait au fond des yeux cette lumière qui brillait dans ceux d'Ezel. Emine lui avait donné 3 ans. Les 2 premières années, il n'avait pensé qu'à Ezel, à Ezel et à lui, à leur mariage et au corps d'Ezel, à Ezel, rien que pour lui. Ça l'occupait durant toutes les traversées. La mer prenait un sens, l'amour d'Ezel. À chaque escale, il envoyait de l'argent à sa famille, presque tout. Il gardait juste ce qu'il fallait pour se saouler la gueule et s'offrir une femme pour la nuit.
Thank you. me zo gant un kreuzer mo ter leo er mez un teguen du an de meus ur ben al grez ket ar no hag ur lan ur an un anvi me zo gant un Kreze mo e bro ar vo Me zad wer idad Or mart lo Bivet in deus kur a di glo Ur pon e ganden e glade Bam dai bam mo zar ur mo blou Me zad we er i dad Slej ur wede
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Les marins perdus, Jean-Claude Izot. Il était revenu au village un jour. Avec l'argent, il avait acheté à Istanbul un vieux camion de l'armée française. Il avait dit « Voilà ce que je vais faire, je vais être transporteur. » Il se souvenait encore de son arrivée au village. Les peupliers, le long de la route, le pont, la montée, la ruelle, un héros. Sur son chemin, il avait ramassé tous ceux qui rentraient des champs. Puis, il était allé chez Émine pour montrer le camion à Ezel. « Avec ça, je t'emmènerai voir la mer Noire et la Marmara. Nos deux mers, Ezel, avec le Bosphore au milieu. » Elle en avait eu les larmes aux yeux. Des larmes d'enfant. Et Nedim s'était dit que son bonheur était proche. Avant de repartir, il avait confié le camion à son frère aîné, Emur, pour qu'il l'entretienne jusqu'à son retour. Il avait encore 6 mois d'embauche, l'Atlantique à traverser et une escale à Panama. Panama, il ne voulait pas rater ça. Le paradis des marins, on lui avait dit que c'était. Alors, avant d'enterrer sa vie de garçon, il voulait s'offrir ça. Mais Émur avait voulu frimer. Un matin, il avait embarqué dans le camion sa femme et ses 3 enfants, ses parents, ceux d'Ezel et Ezel, direction les gorges de Bilecik. Émur, comme à son habitude, était ivre. Il avait loupé un virage. Le camion avait percuté une roche sur la droite. Son père était mort sur le coup, écrasé. Une lettre le lui apprit à Panama, les autres n'avaient été que légèrement blessés, bras ou jambes cassés, côtes défoncées. Ezel, par bonheur, s'en était tiré avec seulement quelques bosses. Quant au camion, inutilisable, il avait été laissé sur la route. Émine t'accorde une année de plus, disait la lettre de sa mère, mais il souhaite que tu abandonnes l'idée du camion. Il emmerdait Émine, voilà ce qu'il faisait, et il maudissait son frère et sa putain de descendance. Il avait passé la nuit à boire et à danser, claquant les dollars par billets de sang, l'argent du retour au pays, l'argent du bonheur avec Ezel. Depuis, il était revenu au village trois fois. La première fois, il s'était battu avec Émur. La seconde fois, il s'était disputé avec Émine. La dernière fois, avant qu'il n'embarque à la Spezia pour Marseille, il avait entraîné Ezel au bord de la rivière. Elle avait imploré. Elle s'était débattue. Puis elle avait pleuré. Des années de désir contenu, il l'avait prise ainsi avec rage, des années perdues, avec violence. Elle n'avait cessé de réciter des prières tout le temps qu'il était resté à prendre son plaisir. Ezel s'était caché le visage sous les mains. Elle pleurait toujours. Lentement, il l'avait rattrapée par les poignets et il l'avait obligée à le regarder. « Maintenant, tu es à moi, tu le sais, Ezel, à moi. Tu es à moi, je vais le dire à ton père. J'ai pris ce qui me revenait. Ne le regrette pas, Ezel, parce que je t'aime. » Il était parti le soir même. Reparti sur la mer sans un mot à personne, laissant à Ezel le soin d'annoncer à son père la honte qui était la sienne. Avant-hier, il avait eu sa mère au téléphone. Il l'avait fait appeler à la cabine publique. « Tu rentres définitivement ?»« Oui, définitivement. » Il y eut un long silence. « L'hiver a été rude, » elle reprit. « Les arbres ont souffert du froid. » « Même notre mûrier ?»« Non, mais il est comme moi, il va mal. »« Arrête, maman, tu finiras centenaire. » « Ce n'est pas ça, mon fils. Émine ne t'a pas pardonné. »« Je n'ai pas besoin de son pardon. Ezel est à moi, je vais l'épouser, qu'il le veuille ou non, et nous vivrons comme nous voudrons. » Pedrag l'avait attendu une demi-heure, apprit-il par un camionneur espagnol, en arrivant devant le J4. « Pour le même prix, je t'emmène à Amsterdam, » lui précisa l'espagnol. « Je pars dans 20 minutes, le temps de régler la paperasse. Va crever à Amsterdam. » L'autre rigola. Le soleil se levait sur la ville. L'orage, lui raconta-t-il, avait été terrible. Il n'avait jamais vu ça. Une lumière rose embrasa la tour ocre du Fort Saint-Jean. Mais personne sur le parking n'en fit cas. Toute cette beauté, toute cette vie gâchée, pensa Nedim. Une pute sortie d'une forte fiesta rouge. Fier d'être marseillais, pouvait-on lire sur la lunette arrière. Elle vint vers Nedim. Elle le tapa d'une clope. À cause de l'orage, elle n'avait pas fait une seule passe. Elle le conduisit jusqu'au bassin de Radoub, à la porte 3A. Elle se gara contre un hangar de la compagnie marseillaise de réparation navale. « Tu m'offres une autre clope ?» Ils se regardèrent. Elle n'était plus très jeune, 30 ans ou 50 ans, l'âge d'une vie usée, un visage marqué. Il sortit de la voiture et mit le pied dans une flaque d'eau. Et merde, cela la fit rire. Un rire qui ne ressemblait pas à son visage, un rire d'adolescente. Il se pencha vers elle. Elle sembla avoir rajeuni de 10 ans. Il posa un baiser sur ses lèvres. « Merci, » dit-il. « Je suis toujours au J4, passe me voir. » À la porte 3A, cela fit toute une histoire. Nedim n'avait plus sa carte d'accès au port. Il raconta qu'il s'était fait piquer son sac, son fric, ses papiers, tout ça. Le vigile refusa de le laisser entrer. Un genou qui ne voulait pas se mouiller, le règlement. Il y avait trop de fauches sur les quais. Nedim n'en pouvait plus. Il n'avait plus qu'une envie, dormir, oublier toute cette nuit, oublier le corps de Lala, le putain de sourire de Gabi, oublier Pedrag, la route jusqu'à Istanbul, oublier son village, le chemin qui y conduit, oublier Ezel, la colère remonta en lui, la haine. L'Aldébaran, Gueulait Nedim. L'Aldébaran, putain, ce bateau de merde qui est là-bas. Mais putain, retourne-toi, je vais pas te sauter dessus.
Gardien tourna son cou vers la digue, mais ce n'était pas utile, l'Aldébaran. Il connaissait, bien sûr.
Tu le vois là-bas, ce gros tas de ferraille ?
Oui.
T'en as entendu parler ?
Ben, il n'y a plus d'équipage, qu'on m'a dit.
Sûr ? Tous, ils se sont barrés hier soir. Et moi, je serais déjà loin s'il ne m'était pas arrivé des emmerdes. Ville de con, putain. Faut que je voie le capitaine. Lui, il est encore là.
Le gardien consulta son registre.
C'est comment son nom ?
Au capitaine ?
Ben ouais. Pas à son chien.
Abdul Aziz. Le gardien céda. Finalement, il en avait sa claque de Nedim. Il avait envie de roupiller encore une heure, peinard.
Tu veux m'accompagner ? Demanda Nedim.
Ça ira.
Il nota le nom de Nedim sur son registre.
Faut que tu reviennes avec le capitaine, et si tu restes à bord, on te refera une carte. Si t'as pas de carte, pas question de rentrer la prochaine fois.
Nedim traversa le quai à grande enjambée, passa entre les bassins pour rejoindre la digue du large. Il tournait à vide maintenant. Plus aucune pensée ne se bousculait dans sa tête. Il n'eut pas un seul regard pour la mer devant lui, bleu, à l'image du ciel. Un ciel limpide, immaculé, éclatant, lavé par l'orage.
Une superbe journée s'annonçait. La première journée de l'été.
Quand il s'endormit, il pensa à la pute qu'il avait rencontrée. Son visage hanta son sommeil. Dégoût et désir mêlés, il avait chaud, trop chaud. La fille l'étouffait, il se débattait. Le soleil inondait sa cabine. Il se réveilla en sursaut, complètement en nage, et il bandait. La première chose qui lui traversa l'esprit avant même de regarder l'heure, c'est un poème que son père aimait à réciter, de sa voix douce et indulgente.
Sur la route de l'exil, nous nous sommes retrouvés, qui pourrait bien dire où la mort va nous piéger.
Sa montre indiquait 5 heures.
5 heures ?
Le verre était brisé, saloperie. Elle devait être cassée.
Il alluma une clope, l'avant-dernière, toussa.
Quelle heure pouvait-il bien être ? Encore le matin ? Déjà l'après-midi ?
Il n'y avait aucun bruit à bord de l'Aldébaran.
Où pouvait être Abdul Aziz ? Comment allait-il réagir en le trouvant ici ? Qu'allait-il lui dire ?
Épuisé, il se laissa retomber sur la couchette et ferma les yeux, en pensant à Ezel.
Et il s'endormit. En sentant des larmes couler sur ses joues. Qu'est-ce qui s'était passé avec ces fées ?
Abdul Aziz essayait de comprendre et il n'y parvenait pas.
Elle est folle, voilà tout ce qu'il trouvait à répondre sans se cacher que c'était un peu court comme explication. D'ailleurs, cela n'expliquait rien.
C'était le second jour de son retour d'Adélaïde, Australie. Ces fées venaient de coucher les enfants. Il s'était installé sur la terrasse pour boire une ou deux margaritas.
Ces fées avaient le secret pour les préparer, pour mettre juste ce qu'il fallait de sel au bord du verre. Les yeux perdus au-dessus des toits de Dakar dans le calme de la nuit, il commença à évoquer son voyage. Il avait besoin de cela toujours, lui raconter le monde.
Le Kananga avait remonté le golfe de Saint-Vincent pour aller s'amarrer à l'abri dans le bassin extérieur de North Haven.
Là où personne ne venait, où personne ne se rendait de son plein gré, comme cela se disait entre marins. Port Adélaïde se trouvait au-delà de cette bande de terre de broussailles sèches, plates et fumantes, hérissées de cabanes de tôle. Adélaïde était plus loin derrière. Un temple, une église, 3 bars, un hôtel, un bordel, la mairie, un bureau de poste et 100 de maisons partout. Une ville pour les marins.
Plus loin encore, il y avait Beach Taperu, où, selon Reidar, le radio suédois, vivaient recluses des jeunes filles de bonne famille qu'on pouvait baiser à l'œil si on savait bien s'y prendre.
Abdul avait ri en rapportant ses propos. Les filles de bonne famille, c'est le rêve de tous les marins. Chacun a son histoire de fille de bonne famille dans un coin ou l'autre du monde à raconter.
« Ah oui ?»
répondit Céphée. Il avait perçu de la lassitude dans ce « ah oui ».
« Ça ne va pas ?»«
Je suis fatigué. » Et elle était partie se coucher sans finir son verre, le laissant seul avec sa margarita et son récit de voyage. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins Perdus, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.